Je suis à la fois serein et très mobilisé. Les premiers mots de François-Noël Buffet ce matin. Le ministre chargé des Outre-mer débute une visite de 4 jours sur le territoire. Et comme le veut la tradition, après la cérémonie républicaine place Bir Hakeim, le ministre s'est rendu au Sénat coutumier. Il a ensuite commencé ses entretiens avec les responsables des institutions. Vous l'entendrez dès le début du journal. Des recettes locales et anti-gaspi pour nourrir l'avenir, c'est le mot d'ordre de Pacific Food Lab qui réunissait ce matin les chefs cuisiniers des collèges de l'agglomération. L'actualité nationale et Kylian Mbappé ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché. Son avocate dit qu'il est totalement éberlué alors que les médias suédois annoncent qu'il est visé par une plainte pour viol. Sur les terrains, les Bleuets qualifiés pour l'Euro malgré leur défaite ce matin 2-1 contre l'Autriche. Les joueurs de Gérald Batic ont validé leur ticket pour la compétition continentale. Bonjour à tous et bienvenue dans Infomag pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. François-Noël Buffet a donc débuté sa visite en Nouvelle-Calédonie. Le ministre chargé des Outre-mer va passer 4 jours sur le territoire avec un programme fait de rencontres, d'entretiens et de visites de terrain avec 2 thématiques, la politique et l'économie. Pour son premier déplacement en tant que ministre chargé des Outre-mer, il a donc d'abord reçu les honneurs militaires lors d'une cérémonie place Bir Hakeim, au cours de laquelle il a déposé une gerbe au monument aux morts. Ont participé à ce dépôt de gerbe le président du gouvernement Louis Mapou, la présidente du Congrès Velma Falaeo, la présidente de la province sud Sonia Baques, le député Nicolas Metzdorf et Jean-Pierre Delrieux, premier adjoint au maire de Nouméa. Et à l'issue de cette cérémonie, François-Noël Buffet a déclaré qu'il arrivait avec la volonté d'écouter.
Je suis dans un état d'esprit de travail, d'écoute. Je suis à la fois serein, mais en même temps très mobilisé pour essayer d'apporter ce que je pourrais apporter à la Nouvelle-Calédonie et à tous les Calédoniens. Donc j'arrive à la fois confiant et à la fois très concentré sur la mission qui est la mienne. Je suis déjà venu 2 fois lorsque j'ai présidé la commission des lois du Sénat. Donc je ne suis pas en terre inconnue, si je puis dire. Mais comme ministre, c'est la première fois et j'ai choisi de venir ici parce qu'il y a un territoire à reconstruire, un dialogue à renouer. Et donc je viens dans cet esprit-là, vraiment.
Et après avoir pris le temps de saluer les forces armées et les associations patriotiques, mais aussi d'échanger avec les élus et les représentants des institutions, François-Noël Buffet a tenu à rappeler que l'État restait mobilisé dans cette période extrêmement difficile pour la Nouvelle-Calédonie et des annonces seront faites, promet le ministre.
Oui, bien sûr qu'il y aura des annonces qui seront faites au fur et à mesure des réunions. Ma feuille de route est simple, il faut dans un premier temps expliquer pourquoi on a reporté les élections provinciales. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est le constat de la situation sur le plan, j'allais presque dire, matériel, mais pas seulement, également moral, si je puis dire. Et puis, c'est les premières approches de reconstruction, de mise en place de procédures pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans sa reconstruction. Donc, c'est un aspect très concret, en réalité. Je suis là pour essayer d'être efficace et d'être très concret dans l'intérêt des Calédoniens.
François-Noël Buffet, qui s'est ensuite rendu, je le disais, au Sénat coutumier à Nouville. Il était accompagné notamment par le haut-commissaire Louis Lefranc et la présidente du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, Velma Falaeo. Et il s'est entretenu avec les membres de l'institution Elisabeth Noir.
Coutume d'accueil pour le ministre chargé des Outre-mer avec des échanges sur fond de métaphores autour de la natte et de sa signification. Il s'agit d'un travail long, mais qui perdure dans le temps, tout comme le sera la reconstruction de la Nouvelle-Calédonie. François-Noël Buffet a rappelé à ses interlocuteurs qu'il est déjà venu 2 fois en Nouvelle-Calédonie sous d'autres fonctions. Il déclare que les choses ne seront pas simples, mais que ceux qui ont envie de les faire progresser vont devoir construire ce chemin-là. Après le geste coutumier, le ministre des Outre-mer a eu un entretien d'un peu moins d'une heure avec les sénateurs coutumiers. À l'issue de cet échange, le président du Sénat coutumier, Éloi Goé, s'est exprimé en demandant des actions concrètes de la part de l'État.
Les intentions, c'est bien, mais nous voulons des choses qui soient claires, nettes, et qui soient tenues par les actions après. Nous souhaitons que l'État ait un regard particulier pour les difficultés de la population kanak, ce qui n'a pas été le cas depuis beaucoup de temps. Et ce qui a mené aux choses douloureuses que nous avons rencontrées depuis le 13 mai. Les choses se sont beaucoup dégradées. L'accord de Nouméa, les mots forts, c'était le rééquilibrage et le partage. Je pense que les choses sont visibles. On est passé à l'opposé de ce qui a été voulu par l'accord de Nouméa. Les riches qui ont continué à s'enrichir et les pauvres qui ont continué à s'appauvrir. Tout simplement, nous sommes du bon côté, malgré toutes les choses que nous subissons depuis longtemps, depuis très longtemps. Et nous avons en face de nous un État qui est représenté plus ou moins bien vis-à-vis de nous. Mais voilà, nous, on observe. À un moment donné, il faut que ça cesse, quoi. Il faut que les solutions pérennes soient données à la situation particulière, parce que nous parlons du peuple premier, du peuple kanak. Je pense que c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Mais voilà, on attend des faits, quoi.
Des propos recueillis par Léana Colombo, Sénat Coutumier.
Et avant ces premières séquences, nous avons reçu sur Radio Rythme Bleu ce matin Alcide Ponga, le président du Rassemblement. Il était notre invité à 7h30 pour nous dire justement ce qu'il attend de cette visite. Alcide Ponga qui connaît François-Noël Buffet pour l'avoir rencontré dans ses fonctions de sénateur. Et ils appartiennent évidemment à la même famille politique, Elisabeth.
Alcide Ponga qui rentre de Paris où il a notamment assisté à la déclaration de politique générale du Premier ministre Michel Barnier qui a, vous le savez, parlé de la Nouvelle-Calédonie. Sa déclaration sur la non-convocation du Congrès de Versailles sur la modification du corps électoral avait créé la polémique avant que le Premier ministre ne rectifie le tir devant le Sénat. Mais pour Alcide Ponga, il n'y a pas de sujet. Il est évident qu'il va falloir modifier le corps électoral.
Moi, ce que je comprends dessus, c'est qu'il va falloir discuter parce qu'on ne peut pas rester sur le même corps électoral. Donc, pour moi, la polémique qu'il y a eu dessus, ok, il y a eu peut-être des incompréhensions, mais il est entendu par tout le monde, et je dis bien tout le monde, hein, pour avoir échangé un peu avec des collègues indépendantistes également en métropole. Il va falloir qu'on discute et puis qu'on trouve un chemin de sortie là-dessus. Et donc c'est ce que le Premier ministre a dit et l'a précisé au Sénat le lendemain. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Et je finirai juste en précisant que, compte tenu de la recomposition de l'Assemblée nationale depuis les dernières élections, je vois mal Emmanuel Macron, président de la République, convoquer le Parlement sur ce point-là aujourd'hui. Parce que si le Parlement était convoqué pour traiter ce point du corps électoral, je doute, quand j'entends la position de la gauche et quand j'entends les revirements de Marine Le Pen sur ce sujet-là au mois de juin, je doute qu'il puisse avoir une majorité sur ce texte en l'état.
Le président du Rassemblement, qui est aussi élu à la province Nord et au Congrès et maire de Kouaoua, est satisfait de la visite du ministre chargé des Outre-mer en Nouvelle-Calédonie. Il trouve bien qu'il puisse constater de lui-même ce qui s'est passé depuis le 13 mai.
Avant l'économie, qu'ils puissent voir déjà tous les dégâts qui ont été faits ici en Nouvelle-Calédonie, issus, on va dire, de toute cette violence, de tout ce qui s'est passé, et se rendre compte que la Calédonie a encore besoin d'avoir des forces de l'ordre ici pour maintenir la sécurité, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge encore. Ensuite, c'est sûr que sur le plan économique, ça va être compliqué pour lui parce que Michel Barnier, le Premier ministre, est en train de serrer les vis tout partout en métropole, mais qu'il puisse constater de lui-même et nous apporter une aide financière notamment, parce que sans l'aide de la France aujourd'hui, on va dire on est couché. Je pense que l'ensemble des plans, notamment celui qui a été travaillé par le Congrès, mais également celui qui a été travaillé par le gouvernement Mapou aujourd'hui, va dans ce sens-là d'une demande de l'aide de la France. Et pour moi, c'est normal qu'on puisse demander à la meilleure patrie de nous aider parce que tout seul, on ne s'en sortira pas.
Alcide Ponga qui est aussi un spécialiste du nickel et nous lui avons demandé s'il pensait qu'il était possible de sauvegarder cette filière aujourd'hui complètement sinistrée.
Il faut que l'ensemble de la classe politique, à un moment donné, on puisse se mettre du même côté de la table et puis regarder le sujet nickel ensemble et qu'on puisse trouver des solutions pour avancer ensemble sur ce sujet-là. Le nickel allait déjà mal avant les émeutes. La concurrence internationale imposée par l'Indonésie avec les fonds chinois nous mettait très très à mal déjà et l'ensemble des usines du territoire et même certains exportateurs perdaient énormément d'argent déjà avant. Les émeutes ont enfoncé encore plus la tête de ceux qui travaillent dans le nickel. Et moi, je veux rester positif. Hein. Je pense qu'on doit être souple sur la question du nickel entre nous. Je l'ai déjà dit à certains élus indépendantistes. Il faut qu'on soit souple entre nous et qu'on puisse s'adapter à ce qui se passe à l'extérieur sur le marché du nickel. Et si on est souple, on sera capable d'affronter les périodes creuses.
Sur sa commune de Kouaoua, le roulage a repris pour NMC. Mais Alcide Ponga a évoqué la situation à Thio, où la SLN a mis le site en sommeil.
Je voudrais avoir une pensée pour les familles de Thio, hein, parce que moi j'ai travaillé pendant longtemps à Thio en tant que responsable administratif de la SLN à l'époque là-bas. C'est triste, c'est dommage d'abord pour les populations qui vivent à Thio et qui vivent du nickel à Thio. C'est également triste pour le nickel parce que Thio, hein, c'est un peu le berceau de la mine en Nouvelle-Calédonie, puis je vais même dire dans le monde, parce qu'il y a eu deux tentatives de création d'usines à Thio à l'époque. Une d'abord à Ouroué où l'usine s'est enfoncée dans le sable et puis une autre ici à Mission où ça n'a pas marché et puis la SLN a fermé les fours à l'époque. C'est dommage, mais j'encourage, moi, les familles de Thio, et je parle bien des familles de Thio, ceux qui sont là-bas, qui sont en silence là-bas et qui subissent tout ça, je les encourage à relever la tête et à travailler parce que si eux ne le font pas, la mine ne rouvrira pas.
Au chapitre politique, enfin, Alcide Ponga affirme que c'est une obligation de reprendre le dialogue sur l'avenir institutionnel. Interrogé sur le report des élections provinciales, il déclare qu'il est techniquement impossible de les organiser d'ici décembre 2024, mais que novembre 2025 est la date limite et qu'elle pourrait avoir lieu plus tôt si une solution politique était trouvée. Une interview d'Alcide Ponga à retrouver en audio et vidéo sur notre site internet.
En bref, revenons sur la fermeture des mines de Thiot. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie déplore profondément cette décision. Dans un communiqué, il estime que cette décision représente un coup dur pour la commune et l'ensemble de ses habitants. Avec 350 emplois supprimés, dont 230 emplois directs et 120 indirects, ce sont des centaines de familles qui se retrouvent durement impactées, indique le gouvernement, qui tient à exprimer sa solidarité envers les familles touchées par cette fermeture et qui salue l'importance historique et économique de la mine de Thiot. Le gouvernement demande à la SLN ainsi qu'à l'ensemble des parties prenantes de travailler de manière concertée et responsable pour explorer toutes les possibilités de reprise des activités. Il réitère enfin son engagement à soutenir toute initiative visant à redonner espoir à la commune de Thiot et à revitaliser l'activité minière dans le respect des équilibres sociaux, économiques et environnementaux.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Qu'attendez-vous surtout de la visite de François-Noël Buffet, le nouveau ministre des Outre-mer ? Si vous attendez d'abord des réponses dans le domaine économique, vous tapez 1. Si vous attendez d'abord des réponses dans le domaine politique, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. La réponse à notre question d'hier maintenant, 97% des auditeurs de RRB qui se sont exprimés par SMS estiment que la SLN a eu raison de mettre en sommeil son centre minier de Thiot. Ils ne sont que 3% à penser qu'elle a eu tort. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. Il est 11h42, on va marquer une pause publicitaire dans ce journal avant de voir l'actualité en métropole et dans le monde, et notamment cette plainte après un viol dans un hôtel, hôtel dans lequel séjournait Kylian Mbappé. Il serait visé selon les médias suédois.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon, Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Nicolas Legrand.
Kylian Mbappé potentiellement visé par une enquête pour viol en Suède. C'est ce que rapportent en tout cas des médias locaux. L'avocate de l'attaquant s'est exprimée ce matin pour nous sur TF1 et elle déclare ne pas être pour l'heure capable d'affirmer que son client est réellement au cœur de cette enquête. Écoutez Maître Marie-Alix Canu-Bernard.
On nous parle d'une plainte, d'un dépôt de plainte, mais à cette heure, on ne sait même pas à l'encontre de qui. Une plainte ne fait pas la vérité, une plainte ne fait pas la preuve de quoi que ce soit, et je ne sais même pas, encore une fois, si la plainte le vise. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et donc, de ce fait, cela exclut totalement le fait qu'il y ait pu avoir des agissements répréhensibles de sa part. Voilà. Ça, je peux vous le dire, parce que ça, c'est une certitude absolue. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin.
Et sur les réseaux sociaux, Kylian Mbappé dénonce une fake news et laisse entendre que le PSG pourrait en être à l'origine. Une audience devant la commission paritaire de la LFP avait effectivement lieu la nuit dernière pour arbitrer le litige entre le joueur et son ancien club sur les salaires non versés. La décision sera rendue le 25 octobre prochain. La situation au Liban, au menu du Conseil des ministres, et un nouvel avertissement lancé à Israël à cette occasion. Emmanuel Macron affirme que Benjamin Netanyahou ne doit pas s'affranchir des décisions de l'ONU, tout en soulignant que c'est une décision des Nations Unies qui a permis la création de l'État hébreu. Le Premier ministre israélien riposte, c'est la guerre de 1948 qui a permis la création d'Israël et non l'ONU, c'est ce qu'il affirme. Un accrochage qui intervient après plusieurs jours de tension. Jacques Serret pour Europe 1.
Ce qui était l'exception est devenu la règle. Depuis plusieurs jours, Israël ne prévient plus l'armée française des frappes envisagées sur le Liban, confie une source diplomatique. Jusqu'ici, l'État hébreu prenait notamment en compte la présence d'officiels français sur le terrain pour éviter tout risque d'incident diplomatique. Ce n'est plus le cas. Le signe d'une dégradation accélérée des relations, analyse un diplomate. Et les ressentirs d'Israël sur les positions de la FINUL au Liban n'ont rien arrangé. Emmanuel Macron a réitéré son appel à cesser les exportations d'armes, des déclarations qui continuent d'agacer le Premier ministre israélien. Mais Paris ne compte pas dévier de cette ligne, quitte éventuellement à aller encore plus loin. La saisine du Conseil de sécurité de l'ONU à la suite des tirs sur les casques bleus fait partie des options envisagées par la France. Un pas qui n'a pas encore été franchi, mais qui marquerait une nouvelle étape de la distanciation entre Paris et Tel Aviv.
Et j'ajoute que le Premier ministre israélien dit à Emmanuel Macron qu'il s'oppose à un cessez-le-feu unilatéral au Liban. Les Nations Unies ouvrent par ailleurs une enquête après le bombardement d'un village au nord du Liban qui aurait fait 22 morts. Dans le reste de l'actualité nationale, l'arrivée du projet de loi de finances 2025 en commission. Les choix du gouvernement sont déjà contestés. On a même assisté à une véritable passe d'armes lors des questions au gouvernement. On rappelle que ce projet de budget prévoit 60 milliards d'euros d'économies, les deux tiers liés à une baisse des dépenses et un tiers à une hausse des recettes, Alexis Lafontaine.
Oui, la droite s'insurge contre la justice fiscale promue par Michel Barnier. Éric Ciotti l'accuse même d'avoir menti, car finalement 70% des efforts budgétaires seront réalisés grâce aux hausses d'impôts, contre 30% promis par Michel Barnier. Le président de l'Union des droites dénonce donc le manque de courage du Premier ministre à s'attaquer aux trop généreuses dépenses de l'État.
Nous nous opposerons, monsieur le Premier ministre, à ce budget qui conduira à une récession et qui frappera les ménages et les entreprises. Au vu de ce budget digne des gouvernements socialistes, je me demande si vous n'êtes pas devenu le Premier ministre rêvé du nouveau Front populaire.
Piqué au vif, Michel Barnier répond immédiatement à la mise en cause d'Éric Ciotti.
Cessez de nous donner des leçons. Je les écoute toujours avec attention. Je continuerai de les écouter d'où qu'elles viennent, à condition qu'on s'en tienne aux faits, aux chiffres, à la vérité, monsieur Ciotti.
L'ambiance électrique de ces premiers échanges budgétaires donne le ton des jours à venir.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 11h48, vous écoutez Radio Rythme Bleu, une nouvelle pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Nouvelle-Calédonie, avec notamment une marche du ras-le-bol à l'île des Pins.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout-petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
Le Rouf est de retour avec ses horaires habituels et son service de restaurant traditionnel. Découvrez sa carte aux multiples saveurs et ses formules incontournables. La formule du midi à partir de 3400 francs ou encore le menu complet à 6300 francs à déguster midi et soir. Le Rouf, profitez d'un cadre exceptionnel face au lagon. Info au 25 07 00 ou sur la page Facebook Le Rouf.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La suite d'Infomag avec le reste de l'actualité sur le territoire, on retrouve Nicolas Legrand.
Avec cette marche du ras-le-bol à l'île des Pins depuis le 13 mai, l'île a connu des faits de violence et c'est pour espérer trouver des solutions pour mettre fin à ces agissements que l'association AMI, l'Alliance pour la mobilisation et l'investissement, a organisé à 9h ce matin une marche partant du marché communal de Vao. Écoutez les précisions du président de l'AMI, Steve Kouchawa. Il se satisfait de cette marche.
On a eu des bons retours. Il y en a des personnes qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là, mais ils nous ont soutenus dans notre marche. On était au moins une cinquantaine à faire cette marche. Il y avait beaucoup plus de parents avec des enfants qui sont venus nous accompagner dans cette marche. Déjà, c'est positif parce qu'ils nous ont entendu notre message. On a des banderoles qui ont été enlevées déjà devant la mairie. Ça a été enlevé hier. Il y a une petite amélioration, on va dire ça comme ça, mais tout doucement, ça y est, les gens viennent prendre conscience parce qu'on a dit un peu la situation de l'île des Pins par rapport à la situation économique, la situation médicale que nous, l'île des Pins, nous vivons aujourd'hui avec le manque de transport. Les gens prennent conscience qu'on est dans le rouge.
Et l'association demande désormais une table ronde afin de discuter de l'avenir de l'île des Pins avec la mairie, les acteurs économiques et touristiques afin que le tourisme notamment redémarre. En bref, le SMTI indique que les lignes du rail entre Nouméa et Thio vont reprendre du service dès vendredi. La route de Thio est en effet de nouveau praticable pour les bus. Seule la ligne Nouméa-Yaté-Nouméa reste suspendue en raison de la traversée de Saint-Louis. Au chapitre économique, maintenant, c'était ce matin l'ouverture du rendez-vous Sotex So Good au Château Royal à Nouméa, Mickaël Genesky.
Un événement dédié à la French Tech des Outre-mer et du Pacifique. Durant deux jours, les acteurs locaux sont réunis aux côtés d'invités venus d'autres territoires ultramarins et de la région. L'objectif est de réunir, de fédérer les écosystèmes de l'entrepreneuriat et de l'innovation technologique et de valoriser les start-up. Il y a surtout beaucoup d'enseignements à obtenir pour faire évoluer les entreprises locales à travers le partage d'expériences, les échanges, les explications de Florent Montrouge, il est le président de la French Tech La Réunion.
Concrètement, tous ces sujets qui peuvent paraître loin et technologiques sont avant tout des sujets de société. Donc comment arriver à faire chauffer la marmite au quotidien? Et donc on utilise l'innovation au sens très large pour ça, pas que technologique. Et donc notre sujet, c'est comment rester compétitif sur nos territoires pour faire évoluer nos sociétés. Et à partir de là, on a différents niveaux de maturité, donc communauté, capitale. La Réunion est une capitale, donc fait partie des 17 capitales françaises en matière d'innovation dans les territoires. Donc notre sujet, justement, c'est de pouvoir faire en sorte que l'ensemble des communautés Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Zélande, Polynésie, etc., ben on puisse tous les uns ensemble, au travers de nos points communs, notamment notre insularité, d'arriver à avancer, à faire transiter nos territoires vers de la compétitivité et donc du bien-être au quotidien. On a cette chance et on remercie bien évidemment la Nouvelle-Calédonie de nous accueillir pour cette seconde édition, puisqu'on a fait la première édition, nous, à La Réunion l'année dernière, mais le sujet avant tout de la Nouvelle-Calédonie est de fédérer. Et donc c'est en ce sens qu'on va échanger sur ces deux jours sur comment utiliser les forces et les initiatives des uns et des autres pour servir notre droit commun, nous, ultramarins, arriver à aller de l'avant. On a la chance d'être aux quatre coins du monde. Faut vraiment se rendre compte de ce qu'on est à l'échelle des Outre-mer. On représente l'ensemble des continents, on a un positionnement géostratégique, on est fort ensemble. Mais pour ça, il faut travailler ensemble. Sinon, ça se délite. Et donc, notre objectif, il est surtout là de continuer à créer ces ponts, de consolider ce qui existe déjà, toutes les initiatives qui ont été mises en place, d'être pour la Nouvelle-Calédonie, d'être à l'initiative de ces premiers rapprochements aussi. Et donc, le but maintenant, c'est de consolider, de renvoyer la balle et de se soutenir mutuellement.
De nombreux participants étaient présents dès l'ouverture de ce rendez-vous ce matin. Les problématiques exposées sont les mêmes pour la Calédonie que pour la majorité des territoires ultramarins. Les entrepreneurs locaux peuvent donc profiter de ce rendez-vous à portée internationale.
C'est Gou Elvis, je suis gérant de la boîte Yelden Empowerment. On propose des offres d'accompagnement de projets des bio-inspirés. C'est-à-dire sur la plupart des projets qui sont mis en place sur le territoire, on accompagne les projets à être mieux compris par les personnes et puis faire beaucoup de concertation pour que ce soit mieux accompagné aussi par tous les acteurs. Voilà. On est souvent, ici c'est un peu de l'entre-soi entre nous les entrepreneurs, on se connaît assez et puis à un moment donné voilà, on est bloqué au niveau des idées et tout, et on a besoin d'échanger un peu et puis peut-être choper deux ou trois opportunités aussi qui se présentent à nous là, durant la journée.
So Tech So Good, le rendez-vous de la French Tech en Calédonie qui se poursuit donc durant deux jours au Château Royal à Nouméa.
Et puis pendant ce temps, la Pacific Food Lab réunit aujourd'hui 5 cuisiniers des cantines scolaires du Grand Nouméa. L'objectif, Léo Fichou, c'est d'offrir des solutions innovantes et durables pour l'alimentation des jeunes élèves.
Et oui, ce matin, les chefs cuisiniers des collèges d'Ondémia, d'Apogoti, de Normandie, de Coutiot et de Magenta étaient présents dans la cuisine du Pacific Food Lab. Une matinée de préparation de plusieurs plats et d'échanges sur les recettes. C'est le principe des cafés des chefs organisés donc par le Pacific Food Lab. Laurence Upigui était présidente du Pacific Food Lab, mais elle est aussi chef de cuisine du collège d'Ondémia à Païta.
C'est surtout misé sur l'échange de pratiques, de bonnes pratiques, et le fait d'avoir plusieurs chefs, parce qu'on travaille tous différemment. Il y a énormément de recettes, on peut avoir des idées, des astuces et tout. Tous les jours, on apprend. Il y a toujours des choses à grappouiller partout, à droite, à gauche, et c'est ça qui est génial. Tout ça, c'est pour les enfants, parce que ça, c'est notre quotidien. Tous les jours, on a 500 à 600 élèves par jour. Donc, il faut qu'on soit capable d'innover avec les nouveaux produits qu'on a. Inclure aussi beaucoup les produits locaux.
Un rendez-vous réservé au chef des restaurants scolaires. Donc, mais Pierre-Jean Belondrade a tenu à être présent ce matin. Il est le principal du collège d'Ondémia à Païta et a rappelé l'importance d'un bon repas pour les élèves.
Oui, parce que depuis maintenant 2 ans, je travaille avec Pacific Food Lab. Et c'est une démarche qui est fondamentale parce qu'elle permet d'abord de valoriser les produits locaux, de réduire les coûts de production et de faire en sorte que nos élèves mangent équilibré. Et on sait très bien que des élèves qui mangent correctement sont des élèves qui vont mieux apprendre et qui seront plus disponibles pour les apprentissages. Ça, c'est fondamental pour un chef d'établissement.
Pour le plus grand plaisir des enfants, les recettes travaillées aujourd'hui au Pacific Food Lab seront proposées d'ici la fin de l'année dans les cantines des collèges du Grand Nouméa.
Et enfin, encore un heureux gagnant au jeu SMS RRB au 40-20. C'est Johan de Nouméa qui a envoyé son SMS pile au bon moment ce matin. À 10h08 précisément, il remporte 100 000 francs à dépenser où il veut, quand il veut. Pour être le prochain gagnant, eh bien vous envoyez dès maintenant RRB au 40-20 par SMS. Et puis je rappelle que tous les SMS envoyés sont inscrits pour le tirage au sort du million qui aura lieu très prochainement. Encore félicitations à Johan de Nouméa. Il est 11h56, on marque une dernière pause dans ce journal avant de voir l'essentiel de l'actualité sportive. Il sera notamment question de football chez les Espoirs.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur ? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces EcoConso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Allez, on parle football dans cette page de sport avec les Espoirs qui se sont qualifiés ce matin pour l'Euro, Léo Fichou.
Oui, les Bleus ont obtenu leur billet pour le championnat d'Europe qui aura lieu l'an prochain en Slovaquie malgré la défaite face à l'Autriche, une défaite 2-1 des joueurs de Gérald Baticle. C'est la deuxième défaite lors de ces qualifications à l'Euro, 1-0 et 5 victoires également. Les Espoirs terminent donc sur la deuxième marche du podium juste derrière la Slovénie.
Et puis un mot de tennis pour terminer ce journal. Maxime Chazal dispute le Challenger de Saint-Brieuc en Bretagne.
Et oui, malheureusement, c'est déjà terminé pour le Calédonien qui s'est incliné en 2-7 hier soir lors du premier tour. Maxime Chazal, 362e au classement ATP, n'a rien pu faire face au Britannique Paul Jube, 183e mondial. Maxime Chazal est tout de même engagé en double. Il jouera la nuit prochaine à minuit le premier tour donc du tournoi de double aux côtés de l'Indien Azem Naou.
Merci beaucoup Léo Fichou pour ce point sur l'actualité sportive. C'est ainsi que se referme ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi.